Bonjour et bienvenue sur Radio Agora. Les femmes constituent la majorité des emplois dans le milieu associatif, près de 70% au total selon une étude IFOP. En dehors de leur casquette de présidente, elles ont toutes été bénévoles, c'est-à-dire toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Avec nous aujourd'hui, Loubna, présidente de l'association Authenticité, Béatrice de l'APPE, Caroline d'Handicap par l'Ombré et Josiane de Clapotis-Ricochet. Ces femmes sont très engagées au sein de la ville de Nanterre, une ville représentée aujourd'hui au sein de cette émission par monsieur le maire Patrick Jarry. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Justement, monsieur le maire, pourquoi Nanterre met l'accent sur ces parcours de femmes engagées? En quoi est-ce important pour vous?
Je pense que la ville a inscrit dans son histoire que la défense de droits de tous les gens qui vivent sur son territoire. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la question du droit des femmes est une question tout à fait importante. Leur place dans les responsabilités, dans la culture, dans le sport, dans la politique, etc., est une question décisive pour l'avenir d'une ville comme Nanterre, comme d'ailleurs, je pense, pour l'avenir du pays. Mais elle est décisive pour une ville comme Nanterre. Et moi, je ne connaissais pas votre chiffre de 70%.
Oui.
Mais je trouve que c'est effectivement tout à fait intéressant. Et ça montre évidemment la qualité de l'engagement des femmes qui savent s'engager, parfois plus que les hommes, dans les responsabilités, dans la prise de risques, y compris professionnels, pour pouvoir assumer. Donc je suis très heureux d'apprendre ce chiffre-là. Et puis, vraiment, je pense qu'il faut que Nanterre, aujourd'hui, dans les années qui viennent, continue de relever tous ces défis.
Voilà. Et justement, il y a eu plusieurs initiatives et projets qui ont été mis en place dans la ville de Nanterre, comme la Maison des Femmes.
Oui, alors ça, c'est sur un aspect plus particulier des droits des femmes, et notamment donc les femmes qui sont victimes de violences. Donc c'est évidemment un projet d'ailleurs qui nous a été proposé par des femmes au cours d'une des... On avait préparé les élections municipales avec 10 grands rendez-vous dans la ville, et ce sont des femmes militantes d'associations de Nanterre qui nous ont dit c'est bien ce qui se fait déjà à Nanterre sur ce sujet, mais il faudrait faire plus. Pourquoi ne pas créer une maison des femmes? Donc voilà, on a retenu cette proposition, maintenant on la met en œuvre. Et donc on travaille sur l'ouverture de la maison des femmes d'ici à la fin de l'année. Donc Maison des Femmes qui sera à la fois un lieu mais qui sera en même temps un réseau. Hein. L'idée, c'est évidemment d'être plus efficace que ce qui se passe aujourd'hui, mais donc avec à la fois un partenariat avec l'hôpital de Nanterre qui sera en quelque sorte le pôle santé de cette maison des femmes, avec donc une entrée possible de femmes qui s'adressent d'abord à des médecins ou qui vont à l'hôpital pour des tas de raisons. Et puis la police nationale, puisque évidemment c'est une autre entrée des femmes qui sont victimes de violences. Une autre entrée est également par des associations. L'idée, c'est simplement, d'essayer de créer un réseau beaucoup plus dense où tout le monde se retrouve ensemble, associations, ville de Nanterre, hôpital, police, tous les acteurs dont les femmes ont besoin pour faire face à une situation extrêmement difficile, douloureuse, qui doivent... voilà. Et puis en même temps, c'est aussi agir pour que ces violences faites aux femmes... c'est classé intraconjugal, infraconjugal dans les choses policières, diminue, puisque pour l'instant, on est sur plutôt une phase d'augmentation. Sans doute lié en partie à la situation sanitaire qu'on a connue du Covid, mais aussi sans doute au fait aussi que les femmes aujourd'hui portent plainte, en tout cas se signalent beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus importante qu'avant. Donc voilà, en tout cas pour l'instant on est plutôt sur une courbe ascendante, et donc il faut absolument qu'on arrive à participer. Et j'espère qu'on sera imité par d'autres villes, hein, puisque si ça dans ce qu'on fait, on va essayer que d'autres villes aient envie de faire comme nous concurrence, puisque dans la matière, il faut que toutes les villes s'y mettent. Quoi. Voilà. En tout cas, nous, on va s'y mettre et on va tenir l'engagement je pense, à peu près bien parti.
On a un bon exemple justement autour de cette table avec quatre présidentes. En quoi est-ce que pour vous, l'engagement justement est important, surtout par rapport à votre parcours ? Il y en a qui sont dans l'associatif depuis plus de 20 ans, d'autres qui ont repris une association Luna après justement une présidence au masculin. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous justement cet engagement dans l'associatif Luna ?
Alors mon engagement dans l'associatif, moi, il date de plus de 20 ans maintenant. J'ai toujours eu à cœur d'aider les autres. Et c'est vrai que dans le milieu associatif, je me suis retrouvée en fait dans ce milieu. Et c'est vrai que je ressens beaucoup d'empathie pour les gens qui viennent en général au sein de notre association. Et j'essaye au mieux de les aider. Et c'est quelque chose qui m'est propre. Enfin, c'est quelque chose qui est en moi et que j'essaye en fait de poursuivre.
Et surtout que vous avez apporté votre touche parce que c'était une présidence qui était du coup masculine juste avant vous. Et quand on s'était entretenu, vous avez parlé justement d'un changement plus dans la communication, dans le partage des projets.
Oui, c'est vrai que... Excusez-moi, monsieur le maire.
Non.
Mais c'est vrai qu'en tant que femme, la communication passe beaucoup plus facilement avec d'autres femmes. Je ne sais pas, il y a quelque chose en fait. Entre femmes, on se comprend plus vite et mieux peut-être. C'est vrai que nous, en fait, au sein de notre association, on a essentiellement des femmes qui s'investissent tous les jours, qui sont là présentes tous les jours à nos côtés, à titre bénévole, et on a des salariés aussi à l'association qui sont que des femmes aussi. Donc c'est vrai que notre association, est-ce qu'elle peut être représentative de tout ce qui, enfin, de toutes les associations de Nanterre, je ne sais pas, mais en tout cas chez nous, c'est vrai que c'est essentiellement des femmes qui s'investissent dans notre structure.
D'accord. Et pour vous, Josiane ?
Alors moi, mon entrée dans le bénévolat, il a été tout à fait par hasard. C'était pas un engagement. L'engagement est venu progressivement, mais j'ai démarré par amitié pour la personne qui a monté l'association Club Petit Ricochet.
Est-ce que pour rappel, vous êtes présidente depuis 23 ans maintenant de l'association ?
21.
Bon, et ça fait quand même une bonne vingtaine, non ?
Oui, et malgré les statuts qui nécessitent un changement tous les 3 ans, on n'arrive pas à trouver la succession. Mais enfin bon, on va quand même y réussir un jour. Mais ce que je voulais dire, c'est que on arrive un peu par hasard dans le bénévolat. C'est pas, faut dire exactement ce qui s'est passé pour moi. C'était pas par altruisme, c'était vraiment par amitié pour rendre service à quelqu'un. Et puis peu à peu, je m'y suis mise. Et ça m'a apporté d'abord de la fierté, parce que peu à peu, je me suis rendu compte que j'étais très fière de pouvoir mener à la fois une vie familiale, une vie active qui était très active, et une vie associative. Et puis l'âge de la retraite s'approchant, j'étais de plus en plus disponible, et surtout j'avais la satisfaction d'avoir un retour de la part à la fois de l'équipe salarié qui s'investit vraiment très très à fond, des bénévoles et des adhérents. Et vraiment, c'est très très sympa d'avoir des adhérents qui vous disent c'est chouette, par exemple le clapotis est resté ouvert pendant la pandémie, et là ils nous sont tous très reconnaissants. Donc ça fait chaud au cœur de se dire que tout compte fait, on participe à quelque chose et on fait tant bien que mal, avancer et progresser une association.
Parce qu'en plus, vous participez triplement maintenant. Donc, vous avez peut-être commencé...
Triplement non, puisque je n'ai plus la vie active. Ouais. Donc ça, on oublie.
Mais au sein de 3 associations.
Un peu plus de 3.
Ouais. Voilà.
Un peu plus de 3. Bon, je ne suis pas présidente partout. Je suis présidente qu'à une association. Mais c'est vrai que l'engagement bénévole amène l'engagement bénévole. Et quand on a la chance d'avoir du temps et la santé, c'est super de multiplier, parce qu'en plus les horizons sont totalement différents les uns des autres. Donc il n'y a pas de ronron. Et c'est vraiment... c'est vrai que c'est pas... Et ça, c'est pas en tant que femme, c'est en tant que bénévole, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce que ça fait un peu dame patronesse, qui sait pas trop comment s'occuper. Mais c'est vrai que le fait d'apporter quelque chose, ça encourage à continuer ailleurs.
Ouais. Et vous, Béatrice ? Du coup, vous êtes, en plus, vous êtes, c'est la co-gestion,
ouais,
c'est ça ? Vous êtes trois.
Ouais. En fait, nous sommes trois, oui. Enfin, moi, déjà, j'ai commencé, je suis rentrée dans l'association il y a plus de 20 ans.
Oui.
Un peu comme Josiane, par relation, j'ai voulu aider aussi. Et puis, j'ai mis un pied, finalement deux. Et puis, tout ça a évolué et j'ai trouvé vraiment cette association passionnante. On rencontre énormément de gens. On leur donne un petit coup de pouce. Enfin, c'est le but de l'association, de leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils puissent s'en sortir. Et on voit des familles qui arrivent à trouver un travail, à finalement donc, se loger. Tout.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est satisfaisant. Et c'est vraiment... très, très précieux, ouais, de voir toutes ces familles. Et donc oui, effectivement, il y a eu un changement au niveau de l'association il y a 2 ans. Et nous avons formé un trio de présidence, ce qui est plus confortable,
ouais, que pour Josiane. Ouais. Parce que ouais, vous êtes aussi, du coup, c'est que on s'était dit, ça fait plus de 20 ans aussi que vous êtes en associatif. Et vous aviez évoqué le fait que, en fait, on ne peut pas ne pas agir. Parler justement d'action, qu'on pouvait pas laisser,
oui,
les choses se faire et que
voilà,
et pour vous c'était vraiment important.
Oui, oui, c'est vrai. Bah oui, à partir du moment où on a commencé ce genre d'action, on se dit que en plus là ça devient de plus en plus, il y a de plus en plus de familles qui sont en grande difficulté.
Oui.
On peut pas les laisser tomber. Alors on fait ça à notre niveau, c'est petit. Bon voilà, on fait ce qu'on peut,
oui,
mais voilà, on aide un certain nombre de personnes et au moins celle-là, on les aide à s'en sortir, et
ouais,
ça c'est vraiment satisfaisant. Ouais.
Et pour vous, Caroline ?
Alors du coup, de mon côté, c'est un peu plus spécial, c'est que en fait, je viens de Belgique, donc je suis de la Belgique, je suis arrivée en France il y a quelques années, et j'ai appris moi-même que j'étais autiste et que j'avais un petit garçon qui était autiste, et toute la démarche de prise en charge était horrible. Et en fait, n'ayant pas de diplôme, j'ai été recrutée par un grand groupe d'assurance qui s'appelle AXA en tant que gestionnaire sinistre corporel, et parce que j'étais trilingue. Et en fait, il y a eu la manifestation des Gilets jaunes en juin 2019. Et j'ai amené un ami en manifestation. Et en arrivant dans cette manifestation, il y avait plein de personnes en situation de handicap et d'invalidité. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi ils sont là, ces gens-là ? Et j'ai voulu m'intéresser. Donc j'ai fait un live Facebook, puis deux, puis trois, en parlant du handicap. Et en fait, mon métier de gestionnaire sinistre corporel médical me permet de connaître en fait les rouages de l'administration. Et donc, depuis fin janvier 2019, on a aidé 7500 personnes nationalement, donc dans le cadre de la CAF, CPM, MDPH, assurantiel aussi. Et vraiment, ça s'est fait naturellement. C'était pas un choix. C'est-à-dire que j'ai pas dit, tiens, je vais m'engager. C'est que j'avais tellement de demandes que la seule manière légale de me protéger en cas de problématique, c'était de créer une association. Et voilà, on est 14 sur tout le territoire français. On est basé à Nanterre et on fait tout de manière téléconsultative sur les réseaux sociaux. Et cet engagement, alors oui, on est beaucoup de femmes au sein de l'association, mais il y a aussi des hommes très engagés et qui sont à nos côtés pour nous soutenir quand on en a besoin, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et que je trouve que c'est important quand même de les mettre à l'honneur aussi, parce que se retrouver à 4 hommes parmi 10 femmes, ouais, c'est pas forcément évident non plus. Et puis ils sont là, ils nous épaulent, et puis on avance bien. Et puis maintenant, on travaille avec le ministère de la Santé et de la Solidarité, le cabinet de Madame Puzel. On a travaillé sur la réforme des ESAT, donc qui va être mis en place à partir de janvier 2022. On a proposé 15 propositions, dont toutes les 15 étaient retenues. On a co-dirigé en fait le groupe des droits des travailleurs, et donc par conséquent, on nous a demandé de créer aussi également un syndicat interprofessionnel. Donc on agit sur la banque et assurance et sur les ESAT, donc les personnes en RQTH, donc qui sont en situation de handicap. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui vient sans forcément le faire exprès. C'est pas calculé en fait.
Ouais. Parce que là, vous avez été témoin du coup d'une situation et vous avez eu envie d'agir.
Ouais. C'était horrible parce que j'avais des gens qui me disaient, j'ai eu des familles vraiment dans des cas horribles et il fallait les aider tout de suite. Et on a eu de la chance d'avoir eu des députés à l'Assemblée nationale qui nous ont reçus rapidement, notamment Cécile Rilhac, députée du Val d'Oise. On a eu aussi Madame la Ministre qui nous a accueillis en moins de 15 jours parce qu'on allait se retrouver avec une manifestation de travailleurs ESAT et que c'était peut-être pas forcément adapté, ouais, aux travailleurs du secteur protégé. Et voilà, c'est devenu ma force en fait. Et là, je m'engage dans le coaching, donc coaching de vie et job coach pour les personnes en situation de handicap.
Et justement, vous disiez que vous aviez aussi parfois souffert de certaines opinions où on pensait que, sous prétexte que vous aviez un handicap, il y avait tout un fantasme en fait autour, et que la problématique du handicap, c'était la conscience collective.
Exactement. En fait, aujourd'hui, on a beau créer des lois, on a beau créer des réglementations. Je vais vous donner un exemple un peu simple. C'est que, on dit qu'il y a une politique handicap dans les entreprises. Oui, c'est vrai, il y a une politique handicap dans les entreprises. Les RH sont très ouverts à recruter des personnes en situation de handicap, mais en général, c'est tout ce qui est manager qui bloque. D'accord. Parce qu'ils ne savent pas comment encadrer, alors qu'une formation handicap suffirait. Et c'est pareil pour les établissements scolaires. On pense que oui, c'est bien d'avoir des AESH, c'est bien d'avoir des enseignants spécialisés. On milite pour qu'il y ait des unités d'enseignement partout en France. Mais par contre, ce qui est important, c'est que les professeurs puissent aussi avoir une formation, non pas proposée, mais obligatoire, pour pouvoir les accompagner. Et on ne demande pas à ce qu'ils les prennent en charge, mais qu'au moins qu'ils sachent ce qui se passe et qu'il n'y ait pas, par exemple, un enfant, combien de fois, il n'y a pas des parents qui me disent tous les soirs, j'arrive à l'école chercher mon enfant, et tous les soirs, le professeur m'attrape sur le côté pour me parler du comportement de mon enfant. Et voilà, cette formation-là pourrait suspendre ça en se disant, c'est le handicap qui parle. Et là, voilà. Et la conscience collective, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que c'est bien de faire de la sensibilisation au handicap, mais je pense qu'il faut en parler plus dans les médias, il faut en parler plus sur les radios, plus encore. Mais pas de façon à pauvres personnes handicapées, on doit les aider. Mais non, en tant que personne qui peut prendre des décisions et qui est capable aussi lui-même de savoir ce qui est bon pour lui-même et d'avancer ensemble. Et la conscience collective, oui, c'est la clé pour moi.
Ça rejoint ce que disait Josiane sur le fait que parfois les bénéficiaires sont, avec cette idée de dame prêtresse dont vous disiez tout à l'heure dans une émission, il y a quelqu'un... Qui a dit, j'ai trouvé ça hyper pertinent, c'est que la majorité, il témoignait que la majorité des personnes qui bénéficiaient étaient elles-mêmes bénévoles et que finalement en fait c'était important. Est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça vous évoque?
On fait ça depuis quelques temps en fait. On a trois mamans qu'on a aidées et qui maintenant sont considérées comme mamans relais.
D'accord.
Et en fait, en plus, elles connaissent souvent la langue, elles peuvent traduire quelquefois quand il y a des mamans qui ont du mal de comprendre, quand on a du mal de se comprendre. Et pour elles, c'est énorme. Et nous, pour nous, c'est précieux parce que c'est vraiment des mamans qui comprennent, qui sentent, qui peuvent nous faire comprendre aussi certaines choses par rapport à des situations. C'est vraiment très, très important ça.
Oui, en fait, on s'aperçoit que, nous, on a une particularité chez Clapotier Ricochet, c'est que tous les bénévoles sont adhérents. Voilà, on n'a pas de bénévoles extérieurs. On est en train de se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait les accueillir. Mais là, c'est un travail d'accueil du bénévole qu'il va falloir qu'on se penche dessus. Parce que chercher un bénévole en disant on a besoin de bénévoles, mais si c'est pour que la personne soit là en disant je fais quoi donc il y a tout un accueil du bénévole et une définition de la mission de l'association qui est à améliorer. Mais on a à peu près 200 familles qui sont adhérentes, puisque nous c'est des adhésions familiales, et sur ces 200 familles, je parle avant le confinement, parce que pendant le confinement, on n'a pas pu faire grand-chose, donc on n'a pas pu non plus beaucoup se manifester, au moins extérieurement. Le bénévolat en interne a quand même été très important, parce qu'une grande, grande charge des associations, c'est les demandes de subventions, qui sont chronophages, et qui, dans des associations comme la nôtre, où on n'a personne dont c'est le métier, on est obligé de se débrouiller, et on se débrouille entre bénévoles parce que on ne peut pas demander aux salariés dont le métier c'est d'animer et d'accueillir de, à côté de ça, passer des heures administratives. Donc on a quand même on prend en charge cette tâche qui est vraiment très très importante. Mais ce que je veux dire, c'est que avant le Covid, on avait quand même réussi à avoir, alors de manière ponctuelle ou régulière, on avait quand même réussi à avoir une cinquantaine de personnes qui nous ont proposé des heures de bénévolat. Et on a fait le calcul, on s'est dit, tiens, on va regarder un petit peu ce que ça représente. Et en fait, ça représentait 1,5 en FTE, donc en équivalent temps complet. Donc, ce qui n'est pas négligeable quand même. Et si on n'avait pas ça, je crois que on pourrait de temps en temps se dire on va mettre la clé sous la porte, parce que les salariés seuls, qui sont en très petit nombre, ne suffisent pas, et on est, ça devient vital d'ailleurs de recruter quelqu'un en plus. Là, on cherche les moyens aussi pour faire ça, parce que ça devient catastrophique. Ouais. Si on veut mener à bien notre mission, multiplier les prestations qui rapportent quand même un peu de sous, parce qu'on peut compter sur les subventions, mais il n'y a pas que ça. Hein, et donc, pour augmenter le potentiel de vie, là, maintenant, on est arrivé au point où, effectivement, bon, des bénévoles, c'est bien, mais les bénévoles, ouais, par définition, sont pas disponibles tout le temps. Ouais. Et par contre, quelqu'un qui serait là en permanence pour seconder l'équipe, oui, ça serait très, très bien. Mais ce que je voulais dire, c'était effectivement que le bénévolat, il vient peu à peu, à travers les adhérents, parce que ça leur plaît. Voilà, hein, et donc là, ils commencent à s'engager dans, et ils font partie d'une association, parce que nous, on a une association, la partie clapotis, qui est l'accueil jeux parents enfants, où on pourrait très bien se permettre de n'être que consommateur. Hein, à la limite, le parent vient, il joue avec l'enfant, et puis voilà, et puis il s'en va. Et puis, en fait, on s'aperçoit que, bah, peu à peu, bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Et ça, c'est vraiment...
Mais du coup, ils ont envie de rendre.
Voilà.
Ouais.
C'est vrai que nous-mêmes, au sein de l'association Authenticité, c'est ce qu'on constate ça tous les jours. Les bénévoles de l'association, elles ont une part très, très importante au sein de l'association. Elles gèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et sans elles, c'est vrai qu'on aurait mis la clé sous la porte depuis très, très longtemps. Parce que c'est vrai que... Elles sont présentes tout le temps, elles sont là le matin quand on ouvre l'association, et elles, en fermant l'association, elles ferment la porte derrière nous avec elles, enfin on est avec elles tout le temps, et elles sont avec nous tout le temps. Donc c'est vrai que sans ce soutien-là de nos bénévoles, on aurait mis la clé sous la porte depuis longtemps. Ouais.
Très bien. Quand vous entendez ça justement, monsieur le maire, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça vous... Bah, donne envie peut-être pour les aider, pour leur faciliter.
Franchement, je pense que la ville de Nanterre ne serait pas la ville de Nanterre si elle n'avait pas toutes ces associations qui sont plutôt en croissance, hein, puisque dans de nombreuses villes, on dit que le nombre d'associations diminue, à Nanterre il augmente, donc d'une manière assez significative. Je pense aussi, c'est lié au fait que la ville, sur plusieurs décennies, a à la fois proposé des salles d'activité, des locaux pour certains, des subventions, des prêts de car pour sortir, de la possibilité de sortir du matériel. Donc évidemment, sans l'ensemble de ces moyens-là. Alors après, évidemment, le statut associatif recoupe des choses différentes, hein, puisque évidemment il y a des associations qui sont très professionnalisées, qui finalement utilisent le statut associatif parce que c'est un statut assez souple qui permet donc de développer des actions. Alors elles ont en commun le fait de ne pas chercher à gagner de l'argent, hein, puisque donc elles ont ça avec le reste du tissu associatif. Maintenant, évidemment, dans la ville et dans les quartiers, on est évidemment attentif, un peu plus attentif, hein, à ces associations qui sont en réalité des bénévoles, des gens des quartiers, de la ville, qui sur un sujet ou sur une problématique plus locale se mobilisent et se retrouvent dans la vie associative. Alors si on fait le total comme ça à Nanterre de... C'est des milliers de gens en réalité qui participent, on va dire, d'une manière active à la vie associative. Alors d'une manière plus ou moins graduée, bien sûr. Il y a des périodes de la vie où on a plus de temps pour le faire, d'autres moments moins. Alors, ça peut être lié à la vie familiale, ça peut être lié au travail. Hein, c'est pas, évidemment pas facile. Les gens qui travaillent, par exemple, qui ont une heure de transport, c'est plus compliqué que pour d'autres. Mais pour moi, c'est... Je pense d'ailleurs que la fête de la vie associative reflète bien ça, oui. C'est-à-dire cette puissance de la vie associative à Nanterre. Et que sur une partie importante des... les services publics, on est en partenariat. Hein. Si on regarde des domaines assez clairs, comme le sport, par exemple, où la plus grande partie du service public du sport est rendue par les associations sportives. De la même manière que tout ce qui est action de solidarité, etc., est rendu par les associations. Ce qui n'empêche pas que, évidemment, par exemple, la ville de Nanterre a un centre communal d'action sociale qui joue un rôle extrêmement important pour accompagner, dynamiser, etc. Mais sur le terrain, les hommes et les femmes qui sont en contact avec, avec les familles et les personnes qui en ont besoin sont aux associations. Donc on est plus avec des services qui se construisent un peu en partenariat dedans. C'est, d'ailleurs, c'est assez variable suivant les régions en France. Hein. Il y a des régions, c'est encore plus développé que cela. Par exemple, en Bretagne, où les cercles laïcs, par exemple, occupent une place beaucoup plus importante encore que cela dans la réponse éducative auprès des enfants. Mais c'est vrai aussi dans d'autres pays étrangers.
Oui.
Moi, j'ai eu la chance, au moment du Forum social mondial, d'aller au Brésil. J'ai été frappé par l'engagement au sein des favelas, des associations brésiliennes. Ça nous a... Je pense en plus que l'apport des associations, c'est... Il y a beaucoup d'échanges sur la ville, entre les habitants et les élus, les services, etc. Mais avec les associations, on n'est pas simplement dans le dire, on est dans le faire. Et je crois que c'est tout à fait important qu'une ville, elle est façonnée par le nombre de gens qui en sont authentiquement les acteurs. Voilà. Alors parfois, je dis d'ailleurs, Nanterre n'est pas une ville à vivre, elle est une ville à faire. C'est une ville où il faut faire, il faut être dans la ville, il faut être engagé et pas simplement la regarder.
Ouais. Caroline, oui, vous voulez rebondir ?
Oui, je voulais rebondir sur quelque chose, c'est que nous, on ne vient pas de Clichy, on n'a pas été créé à Nanterre, on a été créé à Clichy. Et quand on est arrivé à Nanterre, on a eu un accueil formidable de la part justement du CCAS, où en fait, avec Madame Wilkowski, on a tout de suite été pris en charge, accompagné, et surtout, il y a de l'entraide, c'est-à-dire entre la ville et nous, c'est-à-dire que on a besoin d'aide sur certains sujets, bah, la ville répond, et quand les personnes viennent voir la ville en disant « on est en galère, qu'est-ce qu'on fait ?», on nous envoie du monde. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas que dans « on va demander une subvention à la ville » ou « la ville nous envoie quelqu'un », c'est un échange en fait. Il y a vraiment un partenariat qui se met en place, et je pense que c'est très important de le dire, et que c'est assez rare en fait finalement. J'ai rarement vu une ville, et c'est pas parce que vous êtes là monsieur le maire, mais j'ai rarement vu une ville vraiment s'engager comme ça et accompagner et avoir du retour. Alors certes, tout le monde n'est pas forcément toujours content de tout, mais nous, en tout cas, nous, on a vraiment été accompagnés, et notamment aussi par la maison des associations. Quand on a dû récolter des jouets pour les enfants en situation de handicap hospitalisés, eh ben, ils ont été présents, nous ont mis à disposition une salle, nous ont permis de pouvoir emballer les cadeaux alors qu'on est en plein confinement et qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Enfin, c'était vraiment de l'accompagnement et de l'échange d'informations. On a même eu... le centre du tourisme, l'office du tourisme qui nous a prêté leur salle pour stocker les jeux. Enfin, vraiment, il y a un échange entre les services de la ville. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est rare, en fait. Et il faut le dire quand c'est bien.
En tout cas, c'est ce qui est ressorti aussi sur les autres émissions précédentes où chaque association, en fait, travaillait, même s'ils ne faisaient pas forcément la même chose. Elle travaillait en tout cas en commun pour justement pallier et avoir une offre complémentaire. Voilà.
Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que de plus en plus, et je pense que c'est grâce, là non plus c'est pas une courbette, mais c'est grâce au service de la vie associative quand même, qui a réussi à créer un tissu associatif à Nanterre où les gens apprennent à se connaître. Il y a ceux qui se connaissent depuis belle lurette, mais il y a l'accueil des nouveaux aussi. Et ça, c'est très important aussi de savoir que le fait qu'il y ait beaucoup d'associations sur Nanterre, on peut développer des partenariats qui sont très, très, très importants et qui apportent beaucoup, que ce soit une association avec laquelle on travaille les plastiqueuses sur l'art plastique. Oui. On travaille aussi, on a une association avec l'association Cerise et on s'échange des services. Et donc ça, c'est vraiment très chouette parce qu'on ne se sent pas tout seul.
C'est ça, et c'est justement important. Donc, pour conclure, merci à toutes pour votre participation et à vous aussi, monsieur le maire.